Je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19e. Nous allons lire un texte que je pense plusieurs connaissent, et qui se trouve donc l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, et le verset 16e. Verset 16, Matthieu 19. Il est écrit « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon ?» pour avoir la vie éternelle. » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Gloire à Dieu. » Voilà le récit que l'on retrouve dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui nous parlent de cet homme dont certains disent qu'il est le jeune homme riche, voilà, un homme jeune, parce que voilà, on pense qu'il sort voilà, de l'éducation que lui avaient donnée ses parents, possède de certaines richesses, et on voit qu'il y a un rendez-vous manqué entre lui et le Seigneur. Il s'en va tout triste, mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'il y a des hommes qui sont encouragés à marcher avec le Seigneur, eux qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Alléluia. Et nous voulons nous situer à la suite de ces hommes et de ces femmes, eh bien, qui, dans les siècles derrière nous, eh bien, ont suivi Jésus, ont accepté l'appel de Christ. Alléluia. Et ont renoncé à tout pour le suivre. Et tandis que je méditais sur ce texte, alors, il y a plusieurs choses. Je voudrais juste faire quand même une petite parenthèse. Marc détaille, donne une pensée supplémentaire. Ce n'est pas le fait d'être riche ou d'être pauvre qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans l'Écriture, on voit des gens extrêmement riches que Dieu a bénis. Je pense à Abraham. Et qui sont eh bien, sauvés. Mais Marc, lorsqu'il cite ce texte, cet épisode, dit « Ceux qui se confient dans leur richesse ». Vous voyez ? Et voilà, on comprend aussi les choses. Par contre, l'expression que je voudrais retenir avec vous, elle se trouve au verset 21. Jésus lui dit « Si tu veux être parfait ». Vous avez remarqué ? C'est écrit. Hein. Oh, tout à l'heure, en guise d'introduction, le frère nous a parlé d'être parfait. On n'est pas parfait, mais il n'y a que Dieu qui est parfait, etc. Mais ici, il nous est parlé, si tu veux être parfait. Et trouver Seigneur, c'est quand même très surprenant, parce que dans une réflexion assez naturelle, on se dit, mais effectivement, il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais pourtant, Seigneur, tu dis ici à cet homme, à ce garçon, eh bien, si tu veux être parfait, et puis c'est vraiment un verbe d'état, c'est le verbe être parfait. Et ailleurs dans l'Écriture, j'ai noté ceci, Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ailleurs, l'apôtre Paul dira au chapitre 3, Philippiens 3, 3.15, nous tous qui sommes parfaits, mais en même temps, verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Oh, voilà, il y a quand même cette notion de perfection, cet adjectif parfait qui s'accorde avec la vie chrétienne. Et voudrions-nous poser la question et être instruits, parce que là, c'est de la doctrine, c'est l'enseignement du Seigneur qui doit gérer notre vie. Mais de quelle manière est-ce que je peux être parfait? Imaginez que quelqu'un vienne vous dire, je suis parfait. Est-ce que vous l'avez déjà dit, ça Maggie, tu parles à Martine et tu lui dis, tu sais, moi je suis parfaite. Martine va me téléphoner, elle va me dire, tu sais, il faudrait que tu fasses une visite. Voilà. Et oui, ça nous semblerait un petit peu orgueilleux, mais néanmoins le texte est là, et je voudrais qu'on puisse voir ensemble, eh bien, cette notion de perfection dans la vie chrétienne, comprendre que nous avons un sauveur qui est parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons un homme qui est imparfait, et on va comprendre pourquoi, mais il y a un chemin qui nous rend parfait, et dont les résultats sont aussi parfaits. Alors tout d'abord, commençons par le fait de dire un sauveur qui est parfait. Alors j'ai cherché, j'aime bien lire le grec lorsque voilà on retournait au texte original. Et le mot pour parfait, c'est le mot teleios, qui signifie pas littéralement être parfait, c'est-à-dire quelque chose où il n'y a rien ajouté, ou plutôt ce qui est accompli, ce qui est terminé. Là où rien ne manque, le mot telos signifie la fin d'une action, c'est-à-dire un but qui a été accompli, le dernier point d'une succession. Et si vous vous souvenez des dernières paroles sur la croix, tout est accompli, c'est ce mot-là. Et si on utilisait la même traduction, on aurait pu dire tout est parfait, mais tout est accompli. Et là, on comprend une chose. C'est que dans la pensée biblique, le mot parfait signifie achever une œuvre, terminer quelque chose, vous voyez ? Ça m'a fait penser à mes souvenirs d'étudiants lorsqu'on étudiait la mitose. Je ne sais pas s'il y a des profs de biolo. Voilà, la mitose cellulaire, c'est-à-dire la division. Vous vous souvenez de ça ? Voilà, la prof. Alors je ne sais pas si voilà, tout le monde connaît. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la dernière, la télophase. C'est-à-dire, voilà, voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Voilà. Quelqu'un dit la culture, c'est comme la confiture, hein, vous connaissez ? Voilà, bon, mais je l'étale un peu. Voilà, bon, bref. Hein. Donc, tout est accompli. Et donc, nous comprenons que. C'est l'état d'une chose qui a été menée jusqu'à son achèvement. Et lorsque Jésus dit « Tout est accompli », on comprend ce que ça veut dire. Il a mené l'œuvre du salut jusqu'à sa conclusion bénie. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour que nous soyons sauvés. Alléluia. De telle sorte qu'en Jésus-Christ, nous avons trouvé un sauveur parfait. Autrefois, les hommes de l'ancienne alliance qui étaient gérés par la loi ne pouvaient pas dire qu'ils étaient parfaits, que leur foi était parfaite, qu'ils avaient l'assurance d'un salut. Pourquoi ? Parce que leur foi et l'acquisition de leur salut étaient proportionnelles à leur pratique de la loi. Et l'Écriture ajoute que nul ne sera sauvé, nul ne sera justifié par la loi. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes justement imparfaits, nous sommes incapables d'achever par notre nature ce que Dieu demande. Nous pouvons essayer d'être les gens les plus savoureux, les plus attentifs d'une manière, j'allais dire, horizontale les uns par rapport aux autres. Mais là, il s'agit d'une justice que Dieu soit capable d'accepter pour nous faire entrer dans le ciel de gloire. Et l'Écriture nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, alléluia, c'est que le Fils de Dieu, Jésus, est venu eh bien, pour nous donner un salut parfait. Je voudrais ajouter également ceci. Puisque le Seigneur est notre modèle, et on va lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 10, que le Seigneur Jésus lui-même a été amené à la perfection. Moi, je me suis posé des questions. Mais Seigneur, tu n'étais pas parfait depuis toute éternité ? Mais bien sûr. Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est parfait. Il est sans péché. Amen. Vous êtes avec moi ? Il est sans péché. Sa nature est sainte, sa nature est parfaite, sans faiblesse par rapport au péché. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Et puis, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Le diable n'a eu aucune prise sur sa vie. Mais néanmoins, il nous a dit ceci, eh bien que, celui qui voulait conduire... Voilà, il convenait en effet que celui de qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances en vue de notre salut. C'est-à-dire que bien qu'il fût parfait en tant qu'homme et grâce et par le moyen de son obéissance parfaite, il a été amené à la perfection. Et il est un modèle pour nous, afin que nous ayons nous aussi eh bien, une foi saine de perfection en perfection. Et chers frères et sœurs, c'est en vertu de cette volonté qui s'est plié parfaitement à la volonté de son Père, que le Seigneur s'est rendu un sauveur parfait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça nous fait réfléchir quand même. Ça nous fait comprendre que si toi, Seigneur, et on peut le lire même dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 9, le verset va certainement apparaître, dans 5-9, il nous est dit ceci, verset 8 même, bien que fils, eh bien, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On est dans de la doctrine, c'est l'enseignement biblique. Jésus est le Fils de Dieu éternel avant que le monde existe, il est Dieu le Fils. Mais lorsqu'il devient un homme, et quel mystère, de la même nature que nous, il ne cesse pas d'être le Fils de Dieu, mais il devient un simple homme, de la même nature que nous, un homme parfait. L'homme dans lequel le plan de Dieu s'achève totalement, alléluia. Et ce plan se met en marche par l'acceptation de la volonté de Dieu et par une obéissance. Et mes frères et sœurs, combien nous voulons dire merci Seigneur parce que tu as souffert pour moi. Alléluia. Amen. Combien nous voulons dire Seigneur, parce que eh bien, tu as tout accompli. Peut-être quelqu'un souffre dans son cœur parce que tu te dis intérieurement, je n'arrive pas à atteindre, on va le voir dans un instant, eh bien, l'objectif qui m'est assigné. Et vous savez, on est dans un monde tellement concurrentiel, hyper compétitif. Même je pense que d'une certaine manière, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu as beau avoir plein de qualités, mais tu es devenu nul. Tu es bon à être mis à la corbeille parce que évalué selon les critères du monde, eh ben, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives plus. Mais l'Écriture nous dit, mais merci Seigneur que Jésus, lui, a tout accompli. Alléluia. Et on l'a chanté tout à l'heure. Le Dieu de l'impossible, alléluia. Et pas simplement pour réussir, eh bien, nous montrer ce que c'est une vie réussie sur la terre, mais matériellement parlant, ce n'est pas cela que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais le succès, c'est d'atteindre le but, de se présenter devant notre Père Céleste, chaque jour d'entrer dans sa présence, grâce à un sacrifice parfait, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et cela veut dire, mais Seigneur, merci Seigneur, parce que, eh bien, quand je suis faible... C'est là que je suis fort. Amen. Tu es celui qui me relève. Et je voudrais dire peut-être à un frère, à une sœur au milieu de nous, eh bien, qui se sent complètement acculé par toutes sortes d'épreuves, qui se sent comme dévalorisé. Mais place ta confiance dans le Seigneur, dans celui qui a tout accompli pour toi. Tout est déjà accompli. Tout est parfait. Et entre dans cette foi eh bien, qui va te relever. Jésus sauve parfaitement et il nous conduit à la perfection. Et on a besoin de le laisser agir. Alléluia dans notre vie. Amen. Alors, deuxième point que je voulais voir, puisque notre Seigneur est parfait et nous avons un salut parfait, Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant eh bien, pour intercéder en notre faveur, Hébreux 7, 25. Eh bien, on va considérer la nature de l'homme. Et au travers de ce garçon-là, tout à l'heure, eh bien, ce jeune homme riche, eh bien, nous voyons un homme qui est imparfait. Et on pourrait même dire que c'est vraiment la nature de l'être humain, d'une certaine manière, d'avoir beaucoup de mal, pour ne pas dire parfois ne jamais réussir, eh bien, à achever ce qu'ils veulent commencer. Et c'est vraiment le cas de cet homme. Et même parfois, mes frères et sœurs, on peut voir parmi les croyants comme une forme d'insatisfaction, de mécontentement. Et c'est bizarre parce que, comment vous dire, bien sûr qu'on n'est que des hommes, mais quand même on a rencontré le Seigneur. Et comme on a un salut parfait, que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, alléluia, amen, que Dieu m'a fait grâce pour mes péchés, mais je devrais être, comme l'Écriture le dit, toujours joyeux. Et comment se fait-il peut-être au milieu de nous que quelqu'un est dans un mécontentement, dans, j'allais dire, quelque chose où il y a comme une frustration, il y a un manque. Vous avez remarqué qu'avec angoisse, ce jeune homme, qui pourtant pense avoir tout réussi dans sa vie, je le crois tout à fait sincère, il dira, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore ? L'impression que il y a un vide dans son cœur. Alors, j'ai noté quand même que il y a au moins trois raisons qui sont responsables de cette insatisfaction. Tout d'abord, il est à l'ignorance de la personne de Jésus. Il n'a pas compris qui est Jésus. Il appelle bon maître. Pour lui, Jésus, bien sûr, bien sûr, il est bon, mais pour lui, Jésus, c'est qu'un homme. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Il n'a pas compris qu'il était le Christ. Il aurait pu dire cela à n'importe qui d'autre qui avait un petit peu d'enseignement et de langage, voyez. Et c'est pour cela que Jésus répond à l'insensé selon sa folie. Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Il lui répond selon la même terminologie. Il lui dit, mais je suis, si tu crois que je suis simplement un homme, eh bien, pourquoi est-ce que tu crois qu'un homme peut t'indiquer ce qui est bon? Le seul qui soit capable de t'indiquer ce qui est bon, agréable et parfait, c'est Dieu lui-même. Et tu as besoin de venir à lui. Alors nous avons compris, mais bien sûr, Seigneur, toi, tu es Dieu fait homme, tu es le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Tu es Dieu sur la terre et tu es vraiment celui qui est bon. Mais dans la mentalité de cet homme, c'est quelque chose eh bien, qui se manifeste pas. Et parfois, on a des croyants, hélas, qui ont perdu la bonne vision de la nature de Christ. Et alors, ce sont des gens qui sont emportés, qui sont comme des enfants, emporté à tout vent de doctrine, tout courant de pensée, était jamais satisfait. Ce prédicateur sur YouTube, il t'a dit plein de choses, tu t'es inscrit en ligne, on prie pour toi, voilà, on te donne des modèles de prière, mais ça ne marche pas, tu penses qu'il te manque une activité, alors dans l'église, alors il faut t'inscrire à cela, et ça ne change pas. Mais en fait, pourquoi? Parce que tu as perdu, ou tu as besoin peut-être de découvrir tout simplement, eh bien, la personne de Jésus qui remplit ton cœur, alléluia, amen, qui te réconcilie, qui t'apporte le pardon, alléluia, qui t'apporte cette communion. Et puis, c'est un petit peu la conséquence l'une de l'autre, c'est que cet homme-là, il y a aussi une ignorance sur sa personne, c'est-à-dire, Seigneur, alors s'il prend Jésus pour un homme simplement qui est bon, qui est capable de faire des actes de bonté, voilà, mais moi aussi, donne-moi le truc. Ça veut dire qu'il pense que par lui-même, il est capable de faire quelque chose de bon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la délicatesse que le Seigneur a pour lui parler. Il lui dit, tu connais les commandements? Tu connais les commandements? Oui, alors il les connaît, tu ne tueras point, etc. Tu ne commettras point d'adultère. Vous avez remarqué que les commandements qu'il cite, il les résume à la fin, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième partie des 10 commandements, qui sont au nombre de 6, qui régulent en réalité les relations de l'homme avec les autres hommes. Aimer son prochain comme soi-même. Par contre, le Seigneur ne lui cite pas les 4 premiers commandements qui régulent la relation de Dieu avec un homme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi ? Et parce que ça, il ne l'a pas. Il aurait pu se poser la question, mais pourquoi tu ne me cites pas les premiers commandements ? Pourquoi tu ne me dis pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Mais parce que ça, ça manque dans ta vie. Au travers de ce manque, le Seigneur est en train de lui dire, voilà ce qui manque dans ta vie et qui empêche que eh bien, tu sois complètement satisfait, que dans ton cœur, eh bien, tu sois entièrement eh bien, rempli de cette joie, de cette paix, parce qu'il te manque cette connaissance. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin eh bien, de cesser avec toutes sortes de méthodes, avec toutes sortes eh bien, de recettes toutes faites qu'on peut trouver dans toutes sortes eh bien, de vidéos ou de bouquins, mais de dire ce dont j'ai vraiment besoin, Seigneur. C'est d'un cœur à cœur avec toi, alléluia. C'est d'une relation faite avec toi, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et elle est possible et elle existe en Christ, amen. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas, excusez-moi, je me mets en avant, mais pardon. C'est pas le titre de pasteur qui prouve la spiritualité de qui que ce soit. C'est pas parce qu'un jour quelqu'un reçoit ce titre de pasteur que tout d'un coup il devient plus spirituel que les autres. Ça n'a rien à voir. En ce qui me concerne, ça c'est secondaire. Mais ma vie spirituelle, je l'appuie chaque matin, mais comme vous, dans cette relation, dans cette communion personnelle que je peux avoir avec le Seigneur. Alléluia, amen. Chaque jour, lire la parole de Dieu. Coupez-moi ça, il n'y a plus rien. Coupez-moi ça, je suis mort. Coupez-moi cette communion avec Christ, mais c'est même plus la peine. Mais alors avec le Seigneur, alléluia. Tout est merveilleux, amen. Et c'est pour cela, Philippiens 1:21, Paul dira, mais Christ est ma vie, alléluia. Amen, amen. Parfois, on dit, mais mon travail, c'est ma vie, mon service, c'est ma vie, mon ministère, c'est ma vie. Mais Paul, il n'a jamais dit ça. Mon église, c'est ma vie. C'est pas ça. Christ est ma vie, alléluia. Amen. Et quand Christ est au centre, eh bien, cette vie eh bien, se manifeste tout autour de nous. Et le troisième point, c'est que puisque... Il n'a pas cerné, il n'a pas compris, il n'a pas accepté la révélation de Christ dans sa vie, puisqu'il ne se connaît pas lui-même. Eh bien, le chemin de la perfection, le chemin sur lequel le Seigneur veut le faire passer, mais il ne le connaît pas. Et parfois, on a des bien-aimés qui voudraient bien vivre des choses, être passés par l'épreuve et être toujours joyeux, on le verra tout à l'heure certainement, être de ces hommes et de ces femmes qui... comme Pierre jette le filet et vivent des miracles, la pêche miraculeuse, ou comme je notais, comme Moïse, qui ont quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte sans craindre le Pharaon, il s'est mis en marche, il est sorti de l'Égypte, il a fait l'aspersion du sang, bref, des hommes entiers pour le Seigneur qui ont vu de belles choses. Et on sait que Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, il n'était pas ce genre de personne-là. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Mais parce qu'il y a eu cette ignorance bien, et cette absence de communion, de relation avec le Seigneur, ben Dieu ne peut pas les changer. Dieu ne peut pas les transformer. Dieu ne peut pas les amener de perfection en perfection. Parce que, en réalité, ce chemin... Eh bien, qui rend parfait, et vous l'avez dans ce texte-là, dans Matthieu 19, 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ça, on peut le mettre en pratique si on a une seule motivation au monde. Christ est ma vie. C'est l'amour d'un disciple pour son maître. Et Pierre, il est bien imparfait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que... Pas vous, mais moi, je trouve bien souvent, je ressemble à Pierre. Oui. On aime le Seigneur, mais on n'a pas tout compris. Hein. On aime le Seigneur, on veut marcher de progrès en progrès, mais des fois, ça vous arrive pas, vous, de faire des erreurs ? Vous dites, mais quelle boulette, Seigneur ! Oh là là, vous voyez ? Mais on aime le Seigneur, alléluia ! Et cet homme-là, eh bien, il marche sur le chemin qui est parfait. Et je voudrais te dire, c'est sur ce chemin-là que le Seigneur veut te rencontrer. Ce chemin... qui va eh bien, lever dans ton cœur toute forme de frustration, de déception, de désillusion. C'est le chemin des disciples. Et je suis heureux qu'on ait chanté ce dernier chant, Christ est tout pour moi, qui parle de la croix de Christ, alléluia. Et je voudrais peut-être revenir à cela. C'est le chemin béni de celui qui se charge de sa croix. Pourquoi, en définitive, il y a de l'insatisfaction, parfois de la colère, des difficultés, un manque de progrès spirituel que l'on peut voir s'installer parfois dans nos vies? Mais tout simplement parce que notre chair, elle est bien vivante. On lui laisse un petit peu trop de liberté. On lui laisse une expression qu'elle ne devrait pas avoir. Et la vie de la chair, la vie de l'esprit, pardon, se fait toujours au détriment de la vie de la chair. Oui ou non ? Soyez donc parfaits comme votre Père est céleste et parfait. Mais pour arriver à cela, il faut qu'il y ait des choses qui meurent en moi. Je dis merci au Seigneur parce que, vous savez, quand on est un prédicateur, on aime que le Saint-Esprit confirme la parole. Et tout à l'heure, il a été cité ce texte qu'on va prendre dans un instant. « Ce n'est plus moi qui vis. » On l'a chanté, ça. Hein « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais vous connaissez le début ? Est-ce que vous connaissez le début ? Vous connaissez la référence ? Épître aux Galates, Thomas, chapitre 2, verset 20. Allez, on y va. Bravo, on a des jeunes qui connaissent leur Bible, hein. C'est bien ça. Bon, et les anciens, vous dites amen, oui. Gloire à Dieu. Galates 2, 20. Et voilà ce qu'il est dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue, si je vis maintenant dans la chair, ben oui, je vis dans la chair, pas encore dans le ciel. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, le chemin de la perfection, il existe, mais il faut accepter le pouvoir béni de la croix dans nos vies qui va faire mourir ce qui doit mourir pour que le Saint-Esprit puisse prendre toute sa place. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Paul parle d'être crucifié avec Christ, on ne voit pas un homme qui est triste de prendre la croix, de se charger de la croix, mais il le fait avec joie et bonheur parce qu'il sait que si c'est sa chair qui prend le dessus, mais il est perdu. Il va s'éloigner du Seigneur. L'orgueil va l'emporter. D'ailleurs, il dira qu'une écharde lui est mise dans sa vie afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il dira, mais qu'il demande au Seigneur de lui enlever cette écharde, mais il comprend et Jésus lui dit, mais ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans la faiblesse, alléluia. Parce que en réalité, cette croix, elle crucifie ta nature, ton moi, et elle te fait comprendre, mais regarde, tu es incapable de te sauver, tu as besoin de dépendre à 100% de l'agneau de Dieu, de Jésus, pour ton salut, alléluia. Parfois, on en arrive, ça a pu arriver, de voir des frères et sœurs qui doutent de leur salut ou qui peuvent avoir une peur même de la mort. Mais ça, c'est quelque chose de charnel. Excusez-moi, ce n'est pas émotionnel qu'émotionnellement on puisse... Mais si tu laisses ta chair prendre le contrôle de ta pensée, de tes idées, que le Saint-Esprit vienne agir, alléluia, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi, crucifié avec Christ. Et puis, cette croix, regardez, dans l'Épître aux Galates, toujours au chapitre 6 et au verset 14, voici ce qu'il nous est dit, je vous le lis. Il nous est dit, pour moi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de quoi ? Que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La croix, elle crucifie le monde. Et moi, je suis crucifié au monde. C'est-à-dire, il n'y a plus rien de commun. Vous voyez ? Je suis mort à ce monde et ce monde est mort pour moi. Alors, soyez pas tristes, souriez, parce que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. parce que ça veut dire que eh bien, le monde ne pourra plus avoir d'impact dans notre vie. Nous serons complètement libérés, affranchis, en comprenant par la croix eh bien, que ce monde ne peut nous amener eh bien, aucun bienfait. Et cela mérite quand même notre attention. Notre attention. Et de comprendre où nous plaçons vraiment nos richesses. Je me souviens d'un vieux pasteur, tandis que j'étais en formation, qui, ses paroles m'avaient touché. Et il disait ceci, vous savez, vous pouvez construire la plus belle des maisons, bâtir la plus belle des entreprises, et c'est bien, merci Seigneur, connaître les plus beaux succès sur cette terre. Mais vous savez qu'un jour, tout ça passera. Par contre, sur la terre, il y a quelque chose qui demeurera éternellement. C'est l'œuvre que Jésus lui-même a construit et bâti. C'est l'Église. Pas le bâtiment, hein, mais vous et moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et si je porte ma croix, mais écoute, Seigneur, merci pour la nourriture, le vêtement, le salaire, etc. Mais et parfois, il y a des choses, ça vient à manquer. Oui ou non? Oui ou non? Voilà. Enfin, Jeff Bezos n'est pas dans cette salle. Ni Elon Musk, des hommes avec l'ascension voilà, fulgurante, non? Voyez? On est des gens normaux. Il peut y avoir des moments de haut, des moments de bas, mais notre réussite, elle n'est pas dans les choses de cette terre. Notre réussite, eh bien, elle est dans les choses d'en haut, dans le Seigneur. Et cette croix, elle m'aide. Alléluia, le comprendre. Romains 6, 11. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Amen. Alléluia! Et cela, eh bien, nous amène à faire les choix les meilleurs. Amen. À nous faire comprendre, eh bien, que ma vie, elle est en Christ. Je vis pour te servir. Je vis pour te suivre. Je vis pour rendre témoignage, Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors, je vais terminer en disant ceci. Eh bien, c'est que lorsqu'on accepte ce chemin parfait, ce chemin dans lequel le Seigneur va au bout de son œuvre dans nos vies, C'est l'œuvre du maître vis-à-vis de son disciple. Il le change, il le transforme, il lui apprend à faire sa volonté. Il nous encourage, il nous reprend. Parfois, il nous interdit certaines choses, mais il nous accompagne afin que nous marchions de progrès en progrès, afin que nous disions à la fin de notre parcours, j'ai gardé la foi, j'ai achevé, c'est le mot que je cherchais, achevé la course. J'ai accompli, je suis allé jusqu'au bout avec toi, alléluia, amen. Eh bien, le Seigneur, tandis que nous sommes sur cette voie, nous fait comprendre qu'il y a des résultats qui sont parfaits, des résultats qui sont bénis dans nos vies. Alors, on va terminer sur cela, je voudrais qu'on aille dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, si vous voulez bien, quelques minutes, et on termine là-dessus, les résultats parfaits. Vous avez remarqué, alors on est acte 16, verset 25, il nous est parlé là de Paul et de Silas, vous connaissez tous ce texte, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu, les prisonniers les entendent. Au verset 28, vous vous souvenez bien de ce texte? Voilà, Paul et Silas sont dans cette ville de Philippe, en Macédoine, c'est la Grèce du Nord, et ils évangélisent, et puis par un concours de circonstances, ils sont battus, ils sont jetés en prison, mais tandis qu'ils sont en prison, eux, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Le verset 28 nous dit ceci, alors que le geôlier l'avait battu et l'avait enfermé, celui-ci veut se suicider, mais Paul crie, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment. Et au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dites-moi, ça ce sont des disciples de Jésus. Ça ce sont des hommes qui sont rendus parfaits selon Dieu. Ils n'ont pas atteint la perfection, ils ne sont pas encore dans le ciel. Mais sur cette terre, leur résultat est parfait. Tandis qu'ils sont persécutés, tandis qu'ils sont roués de coups, ils ont une très mauvaise réputation, on les a jetés en prison, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours la joie du salut. Ils prient, et il loue le Seigneur. Il faut vraiment avoir renoncé à soi-même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Tu vas, mais c'est pas possible, Seigneur, comment ça se fait que tu permets ça? Non, pas du tout. Seigneur, tu vois, c'est injuste. Pas du tout. Seigneur, gloire à toi. Je suis ton enfant, alléluia. Et je suis convaincu que tu vas intervenir, glorifie-toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, amen. Et quel exemple pour nous, joyeux dans l'épreuve. Et puis, quand le Seigneur intervient et qu'il se trouve face au geôlier, à celui qui l'aura fait du mal, regardez la réaction, un amour pour ses... Il va se suicider, il va pour mettre fin à ses jours. Ne te fais pas de mal. Mais l'amour pour ses... Dites-moi, l'amour pour ses ennemis. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Mais ça, c'est un fruit béni, c'est un résultat qui est parfait, ça. Pourtant, l'homme, il est toujours aussi imparfait. Voilà, mais il a appris, il apprendra encore. Mais là, le résultat, mais il est béni. Et puis, vous avez remarqué, il est fidèle à sa mission. Il a beau se trouver en prison, il a beau faire du bien, mais il n'a pas oublié pourquoi il est là. Le but, c'est de prêcher Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Acte 16, 31, c'est peut-être dans votre salle à manger, je ne sais pas. Voilà, mais gardez ce texte. Alléluia. Et on s'aperçoit que là aussi, c'est quelque chose eh bien, qui est parfait eh bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Il communique son salut. Alléluia. Le salut eh bien, qui est en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, lorsque nous voyons cela, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous dire, Seigneur, mais j'ai besoin, eh bien encore, je veux avoir les mêmes résultats. Amen. Je veux avoir les mêmes fruits. Je veux vivre, si tu veux être parfait, avoir des résultats bénis dans ta vie, porter du fruit. Alléluia. Seigneur, toi, tu es parfait. Tu me permets, tu as tout achevé, tu as tout accompli. C'est à portée de main, c'est à portée de foi. Seigneur, tu me consoles, tu me renouvelles, tu m'as sauvé, je suis ton enfant, alléluia. Je suis imparfait, limité, mais tu me fais connaître qui tu es, tu me fais connaître qui je suis et tu me montres le chemin. Par ta grâce, tu seras avec moi. Mais il faut que je me charge de la croix. Peut-être que c'est le secret pour la paix dans ton couple. J'attends qu'il me présente toutes les excuses. J'attends qu'elle fasse ceci. Et si tu te chargeais de la croix? Et si dans ta vie, eh bien, c'était plus la chair qui parlait, mais l'Esprit de Dieu? Tout changerait, alléluia. Amen. Et les résultats bénis sont là, alléluia. Quelle grâce. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Alors, je voudrais, avant qu'on termine, qu'on puisse prier le Seigneur. Et qu'on puisse dire, Seigneur, bien, je veux marcher dans tes voies. Et je veux avancer eh bien, dans cette perfection, alléluia, Seigneur, à laquelle tu m'appelles, Seigneur, alléluia. Et en disant que ça ne repose pas sur nos qualités à nous, mais la croix de Christ dans ta vie, c'est-à-dire l'acceptation de la volonté de Dieu dans ta vie, eh bien, permet au Saint-Esprit d'agir pleinement. Et de faire jaillir cette vie qui vient d'en haut. Alléluia. Que le Seigneur veut faire de toi un canal de bénédiction. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, Seigneur, dans cette matinée. Et Seigneur, nous sommes ce matin rassemblés, Seigneur, autour de toi, cherchant à faire ta volonté. Seigneur, ce que nous voulons être, c'est des disciples de Christ. Seigneur, c'est que tu puisses te servir de nous pour que, mon Dieu, ta vie soit manifestée. Seigneur, nous avons tellement, Seigneur, vu de choses extraordinaires avec toi. Seigneur, tu as changé nos vies, nos cœurs, tu nous as pardonnés, tu nous as réconciliés. Mais, Seigneur, tu nous appelles à vivre davantage. Tu nous appelles à vivre plus. Et tu vois, c'est lui, celle, Seigneur, qui, dans son cœur, dans sa vie, Seigneur, veut voir davantage de fruits, que ce soit dans sa famille, dans son travail, dans sa vie d'église, dans sa vie spirituelle. Et tu nous donnes et tu nous montres, Seigneur, le chemin. Seigneur, le chemin parfait. Prends ta croix, viens et suis-moi. Seigneur, c'est un sacrifice, c'est un don. Et on comprend, Seigneur, que la motivation... Seigneur, c'est l'amour pour toi. Seigneur, Pierre pourra dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Seigneur, quel fruit béni il y a eu dans sa vie. Et Seigneur, je veux te prier afin que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, Seigneur. Seigneur, mais je veux renoncer, Seigneur, à ce qui peut-être t'attriste, à ce qui, Seigneur, mon Dieu, empêche que ton œuvre se fasse parfaitement en moi, ce qui m'empêche d'atteindre le but. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et là, votre place, simplement, humblement, que vous puissiez lui dire à Jésus, règne en moi, Seigneur, et je veux prendre la croix. Vous savez, la croix, c'était un instrument qui amenait la mort. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je veux mourir à moi-même, à mes pensées. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, mais vous ne comprenez pas, c'est un lutte, j'ai besogné. Tous mes efforts, je les ai mis dans la bataille. Et vous me demandez d'y renoncer, ce n'est pas moi, c'est devant le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme l'entendions hier, nous voulons ne pas faire entrer Dieu dans nos projets, mais nous voulons entrer dans les projets de Dieu. Et vous avez remarqué que c'est parfois comme le trou d'une aiguille. Il y a des choses qu'on doit laisser, qu'on doit jeter derrière nous. Et c'est ça, se porter la croix. Alléluia. Mais le résultat, il est béni. C'est la guérison, c'est la paix, c'est la vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui, pour elle, qui a besoin d'être encouragé, visité, relevé, de voir la grâce et la bénédiction de Dieu dans sa vie. Alléluia. Dieu intervenir. Vous faites un choix et voudriez que, voilà, on prie pour vous afin que, voilà, le Seigneur vous affermisse dans ce choix-là. Alléluia. Eh bien, on va prier pour vous. Alléluia. Et si quelqu'un veut, ben vous levez votre main. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Gloire au Seigneur. Amen. Oui. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. On va prier Jésus. Amen. Oui, je vous ai vu. Seigneur, à toi la gloire. Nous te rendons grâce. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons prêché la croix. Seigneur, non seulement la croix qui sauve, Seigneur, mais la croix dans nos vies. La croix, Seigneur, qui nous amène à renoncer à nous-mêmes pour entrer dans tes plans, à toi. Et Seigneur, je veux te prier pour ces bien-aimés qui sont dans la lutte, dans le combat, ou peut-être celles et ceux qui comprennent qu'en fait, puisqu'ils te suivent, c'est toi-même qui les as menés sur ce chemin étroit et resserré. Et je te prie, Seigneur, afin qu'ils ne se découragent pas. Parce que c'est sur ce chemin-là que tu vas les bénir. Il est étroit, il est resserré, mais c'est celui qui mène à la vie. Et Seigneur, je te prie pour celui, pour celle, Seigneur, qui peut-être tremble, Seigneur, ce matin en disant, mais si je prends la croix, Seigneur, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, Seigneur, c'est qu'il va devenir, Seigneur, vainqueur. Seigneur, ce n'est plus le monde qui va avoir d'autorité dans sa vie. Ce n'est plus l'égoïsme ou quoi que ce soit, mais ça sera ta victoire dans sa vie. Alléluia! Seigneur, je te demande d'affermir ton peuple et tes enfants dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la joie que nous avons de t'appartenir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, béni Seigneur également cet après-midi, Seigneur. Mon Dieu, bénis notre frère qui apportera ta parole, que cela puisse toucher, impacter les cœurs et les amener à toi pour le salut. Seigneur, à toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.